Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute.
Un vêtement pour vivre a besoin d'un corps qui l'anime, qui habite le tissu. Sans son enveloppe corporelle, le vêtement n'est que tissu sans vie. La question du vêtement au sens large est l'une des composantes de l'histoire du corps car elle implique la question de la nudité et la fonction symbolique du fait de se vêtir. Le vêtement contient le corps, le cache et le protège de la vision d'autrui, la nudité rendant le corps vulnérable. Mais le vêtement voit parfois son rôle renversé, peut-être même annulé. Le corps n'est plus recouvert, caché ou paré, mais dévoilé. L'habit et le corps se confondent et ne font plus qu'un. Quel est le potentiel d'un vêtement, d'un costume? Qu'est-ce que le vêtement raconte sur une époque, sur une société, sur les mœurs, au niveau de la morale? L'habit fait-il vraiment le moine? Pourquoi le corps de la femme est-il presque toujours sexualisé avec ou sans vêtements? Dans cet épisode, vous allez entendre la voix de Sophie Lemayeux, régisseuse des costumes à la Comédie Française que j'ai eu l'honneur d'avoir comme invitée dans ce podcast. Merci encore. Avant de commencer cet épisode, je voudrais partager un point important. Si l'histoire de l'art reste une source précieuse, il faut toutefois garder une certaine distance car toute image est le reflet non pas de la réalité, mais d'une réalité, celle de l'artiste, qui répond à des conventions visuelles. De plus, je vais aborder les choses d'un point de vue purement occidental car j'ai choisi de me concentrer là-dessus. Les choses étant dites, nous pouvons commencer. Le costume-vêtement est un miroir d'une époque, certes, mais surtout un révélateur de la condition sociale. Il est le reflet de l'identité et de la personne que l'on est. La première chose que l'on voit, mais aussi la première source de renseignement. Les historiens d'art et les historiens du costume en particulier s'appuient beaucoup sur la représentation des costumes et sur l'habillement des personnages dans les œuvres, car cela permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'époque étudiée. On se demande souvent, en regardant les portraits royaux au XVIe siècle par exemple, comment il était humainement possible de se mouvoir, vivre tout simplement avec de tels accoutrements. Les souverains et souveraines étaient représentés avec des costumes gigantesques, affublés de grandes collerettes comme cette ribambelle de portrait de la reine Élisabeth Ière, dont voici un exemple datant de 1585. Le costume resplendit de broderies, de bijoux, de pierreries. Le corps se cache sous des monceaux de tissu, seuls les mains et le visage restent visibles dans un souci d'asseoir son pouvoir et sa légitimité. Dans ce cas précis, le vêtement cache le corps devenu absent et se transforme en un instrument politique. Les exemples sont nombreux et reflètent tous un souci du paraître pour l'époque. En dessous de la carapace vestimentaire et la symbolique que cela représente, il y a pourtant bien un corps brut, nu. En histoire de l'art, on représente les nus, dois-je préciser les femmes nues le plus souvent, sous le prétexte mythologique et de manière académique. Ces images perdurent jusqu'au XVIIe. Les femmes sont réduites à un corps magnifié, sacralisé, sexualisé, un peu comme des femmes objets et pas franchement des plus réalistes. Muses, nymphes, déesses, le nu devient plus impertinent à mesure de la libération du corps, et la femme devient alors symbole de séduction et de désir, comme en témoignent les nombreuses œuvres du XIXe, mettant en scène des corps de femmes au bain ou bien encore des prostituées. Du coup, il n'y a pas vraiment de demi-mesure, entre les costumes cachant le corps dans sa totalité, jusqu'à prenant même le dessus sur le sujet principal, et les nus juste pour faire des nus en fait. Ces images diverses semblent refléter la vision que s'est fait l'homme de la femme durant les différentes périodes, car la production artistique est presque exclusivement masculine jusqu'au XXe siècle. Nous pouvons donc percevoir, à travers la représentation qu'il fait d'elle, comment l'artiste, et donc l'homme, voit et pense la femme. Un fantasme jusqu'ici ignoré alors s'impose à la Renaissance, la rencontre d'une femme nue et d'un homme vêtu, comme l'explique très bien Jacques Laurent dans son livre « Nu et dévêtu ». Dans le tableau d'Édouard Manet, « Le déjeuner sur l'herbe », que remarquez-vous en premier ? La femme nue prenant la pose regardant fixement le spectateur, ou bien les deux hommes autour d'elle vêtus de noir, occupés à converser tout en mangeant. Le corps féminin, à l'inverse du corps masculin, est souvent vu comme un symbole d'érotisme. Voir à ce sujet mes deux épisodes consacrés à l'érotisme en art. En effet, le XXe siècle s'autorise à dépeindre la femme nue sans justification symbolique ou mystique, mais dans un simple but de voyeurisme, souvent, pas toujours, assimilé à un symbole sexuel. Et donc forcément se pose la question du corps sexualisé. Cette nudité qui n'offusquait personne pendant l'Antiquité, étant même glorifiée dans les gymnases ou les compétitions sportives, se retrouve par la suite nudité coupable, une nudité sexualisée. Mais sexualisée grâce ou à cause de ces vêtements? La symbolique du vêtement et du costume participe-t-il à la sexualisation du corps en art ou au contraire agit-il comme un mécanisme de défense pour le protéger des regards? Selon Hugues de Saint-Victor, philosophe et théologien du Moyen-Âge, le vêtement est le reflet de l'âme et se doit d'être propre, bien tenu, correct, comme une protection pour ne surtout pas montrer la chair qui est source de péché. Adam et Ève, nus, ont croqué la pomme. Ils ont fauté, désobéi à Dieu, ils sont expulsés du paradis terrestre et sont obligés de se couvrir en signe de déchéance. On leur remet alors un vêtement pour cacher leur nudité, comme le montre très bien cette fresque de Masaccio représentant le couple originel. Adam se couvre le visage de ses bras et Ève se cache la poitrine, l'air terrifié. Pour le christianisme, le vêtement est quelque part toujours associé à la honte. Ce concept de la pudeur fut l'objet d'une réflexion menée par le docteur Gemma Durand, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Pour elle, la pudeur est un sentiment qui est apparu avec la naissance de l'intime et la prise de conscience du corps. Le vêtement, cachant la vulnérabilité du corps, est à reprendre dans les évangiles où l'on voit bien que c'est le Christ et seulement le Christ qui est représenté nu, alors que ses disciples, eux, sont représentés vêtus de larges étoffes de couleurs vives. Mais la nudité cachée par Adam et Ève avec des feuilles de vigne ne saurait être toujours associée à la notion de culpabilité et de protection au regard. En effet, ce que l'on protège par des vêtements, des couches de tissu, attire immanquablement. Et l'on en joue. Que ce soit aujourd'hui sur les tapis rouges, dans notre quotidien ou bien dans les œuvres d'art, c'est sans aucun doute pour cette raison que la parure et le costume à certaines périodes en histoire de l'art sont une manière de montrer, de dévoiler le corps sans le dénuder. S'habiller revient en fait à se déshabiller. Je vais m'attarder sur quelques exemples car je les trouve percutants pour le sujet qui nous anime aujourd'hui. Montrer un maximum de peau tout en gardant le vêtement. Ce qui peut paraître fou, c'est que le corps peint d'une femme nue sera beaucoup moins sexualisé, voire pas du tout, par rapport au corps d'une femme vêtue avec des parcelles de peau que l'on dévoile. C'est à n'y rien comprendre. Pourquoi les jupons relevés de l'odalisque de Boucher dans cet océan de satin bleu choquent plus le regard et les mœurs que le corps entièrement nu de la jeune Vénus de Bouguereau ? La symbolique du vêtement joue beaucoup sur ça. Une femme en train de s'habiller ou de se déshabiller sera plus sexualisée, car c'est l'acte même d'enlever quelque chose qui compte. C'est pourquoi on retrouve bon nombre de tableaux représentant des jeunes femmes nouant leurs bas, par exemple, ou bien enfilant une chemise. Coucou Fragonard. Le drapé d'un vêtement peut devenir voile, masquant ou dévoilant le sujet. Les artistes jouent de cette double fonction. Le voile masque, cache, soustrait le corps aux yeux de l'autre. Tout en le soustrayant, il attire le regard sur ce corps que l'on ne peut voir. L'imagination prend alors le relais. Par ailleurs, le tissu, par sa transparence et sa finesse, peut aussi suggérer dévoiler les êtres. Le corps nu peut ainsi devenir érotique par le seul jeu des voiles qui laisse transparaître et deviner les formes. Cela se vérifie tout à fait dans la peinture orientaliste, mais aussi avec cette toile de François-Martin Cavel représentant un portrait de femme posant avec une peau de tigre. On doute sincèrement de l'utilité du tissu de couleur noire transparent enroulé autour de ses hanches. Le musée des Beaux-Arts de Lyon a consacré une exposition sur les drapés cette année. De Michel-Ange en passant par Rodin et Man Ray, le drapé et son rapport au corps, qu'il soit statique ou en mouvement, on dit beaucoup sur l'émotion que l'artiste souhaite transmettre. On pense à des artistes comme Edgar Degas. Il va réaliser entre 1875 et 1880 un véritable chef-d'œuvre, du moins de mon point de vue. Une sculpture en cire représentant une petite danseuse. Et afin de rendre la sculpture vivante et en mouvement, il assemble un morceau de tissu pour figurer les plis du tutu. L'effet ressenti est bien réel. Le tissu renforce la matérialité du corps et l'habille. On a l'impression que la petite fille va s'éveiller et se mettre à danser. Bien entendu, si je reviens à la base de la base, un vêtement est fait pour être fonctionnel. C'est son utilité principale. Mais il fait surtout partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la mode, mot dérivé du latin modus, apparu à la fin du Moyen-Âge, désignant les codes informels qui régissent les comportements en société, et en particulier les façons de se vêtir. Odile Blanc s'est penchée dans sa thèse sur l'invention du corps mode au Moyen-Âge. Ainsi, les différences de la silhouette masculine et féminine sont les suivantes. Carrure élargie, rétrécissement pour la partie inférieure du corps caractérise les hommes, alors que les femmes au buste menu s'alourdissent à partir de la taille. Perçue comme tentatrice avec son décolleté déjà qualifié de provocant, la femme de mode au Moyen-Âge est en réalité la proie du désir masculin, qui cache son corps sous de grandes robes longues et amples cachant ses jambes. La morphologie de l'homme est flattée par une sorte de corset très court et ajusté, bombé sur la poitrine avec une sorte de rembourrage et une cuirasse pour les combats, ainsi que, tenez-vous bien, le port d'une coque pour agrandir le sexe, pouvant accessoirement servir de vide-poche. Oui, on en est là. Ce drôle d'attirail masculin sera une source d'inspiration pour le corset féminin au XVIe siècle. Voici une définition rapide du corset. Prenez une sorte d'architecture avec des baleines qui contraint le corps à se maintenir droit. Vous avez le plus célèbre instrument de torture du corps féminin de toute l'histoire. La différence est que les hommes ont très vite pu se débarrasser de ces carcans vestimentaires, alors que les femmes vont continuer pendant plusieurs siècles à porter ce sous-vêtement particulièrement contraignant. Le corset va bien évidemment évoluer selon les tendances de l'époque, mais restera toujours présent en histoire de l'art dans les œuvres. Dans la même idée, on a aussi des faux culs. pour toujours plus sexualiser les corps des femmes, comme le montre cette gravure de mode de 1775, conservée dans les collections du palais Galliera, montrant une robe à la polonaise doublée d'un corset et d'un énorme faux cul, qui en plus d'être ridicule, ne doit pas être franchement pratique pour se déplacer. Les caricatures vont d'ailleurs bon train à cette époque où l'on voit des hommes donner des coups de pied dans les fameux faux culs, une vraie bande de beaufs à l'époque. Mais ce qui est assez drôle, à la fin du XVIIIe, c'est quand même cette fichue pudibonderie ambiante qui, franchement, soyons honnêtes, ne flirte pas avec les mœurs libérées de l'époque. Les critiques d'art de l'époque ont été choquées du portrait de Marie-Antoinette vêtue d'une robe chemise peint par Élisabeth Vigée-Lebrun. Elle a été sommée de remplacer ce portrait représentant la souveraine dans une robe plus conventionnelle et plus adaptée au port d'une reine. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un certain débat de 2020 sur les tenues courtes. Le vêtement peut être une source d'apparat et embellir le corps comme un grand papier cadeau qui scintille et attire l'attention. Crinoline, robe de taffetas, gants blancs, chapeau haut de forme, habit que de pie, tout est prétexte pour en mettre plein la vue et être remarqué au 19e dans les grands événements comme l'opéra ou les réceptions. James Tissot, peintre né en 1836 et mort en 1902, est un artiste britannique identifié comme le peintre de la mode et du costume historique. Chez Tissot, comme chez les peintres impressionnistes, le vêtement est un document qui participe à préciser le milieu du modèle, au même titre que le décor ou la pose. Il renseigne et renvoie une image de paraître. Amoureux des étoffes et des tissus, ces toiles sont inévitablement des sources précieuses sur la mode du 19e. La toile Too Early, peinte en 1873, montre des femmes en représentation qui arrivent trop tôt à un bal. Les invitées ne sont pas encore arrivées, elles attendent en agitant nerveusement leur éventail. Leur robe de couleur découpe leur corps, mettant sciemment en valeur leurs atouts, car le but du bal, ne l'oublions pas, est de se trouver un partenaire de danse, si ce n'est un partenaire pour la vie. Le vêtement ici prend une dimension séductrice, et cette dimension n'est que renforcée quand on regarde le nombre de courtisanes portraiturées, vêtues de somptueuses tenues, qui évoquent pêle-mêle le luxe, la richesse et l'indécence. Je vais maintenant laisser parler mon invitée, Sophie Lemayeux. Je lui ai d'abord demandé de se présenter et de présenter son métier incroyable à la Comédie-Française.
Je m'appelle Sophie Lemayeux et je suis régisseuse costume à la Comédie-Française depuis 4 ans. Je ne m'attendais pas vraiment à travailler un jour dans un théâtre, donc ça c'est une bonne surprise qui m'est arrivée à 25 ans. Au départ, j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et en licence, on doit choisir une spécialisation et je m'étais penchée plutôt sur l'anthropologie culturelle. Donc ça devait normalement m'orienter vers les musées de société. Donc pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est en master que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la mode parce que ça me permettait justement de croiser l'histoire de l'art et les questions anthropologiques. Je m'étais dit qu'en travaillant sur le vêtement, j'allais pouvoir croiser toutes les questions d'histoire de l'art et d'esthétique que j'affectionnais, et par ailleurs que j'allais pouvoir toucher à l'histoire sociale. Et ça a été exactement le cas. Et donc ça rejoignait aussi mon intérêt ethnologique. Donc j'ai choisi de me diriger là-dedans en master, toujours à l'école du Louvre. J'ai continué en recherche en master 2. Et je me suis dit que c'était vraiment par là qu'il fallait que je m'oriente. Et le but, c'était à ce moment-là de travailler plutôt dans les musées. Donc j'ai passé le concours de conservateur plusieurs fois, sans succès. Bon, ça ne m'a pas empêché de travailler dans des endroits... extrêmement intéressant. J'ai pu travailler un peu en stage d'abord au Musée des Arts Décoratifs à Paris, avec lequel j'ai pu collaborer ensuite pour différentes expositions d'histoire de la mode. J'ai pu travailler aussi dans un service d'archives de maisons de couture chez Chloé, puisque aujourd'hui la plupart des maisons de couture possèdent leur propre service patrimoine dans lequel elles conservent d'anciennes collections de la maison, ce qui permet de recréer un peu et de mieux comprendre l'histoire. Alors, être régisseuse des costumes, en quoi ça consiste ? D'abord, c'est assez particulier parce que c'est un travail qu'on trouve dans peu d'endroits. Même au sein des théâtres et des opéras, c'est plutôt rare d'occuper uniquement cette mission-là. En tant que régisseur, on est une équipe, on est 5 en tout. à la Comédie Française et on s'occupe des réserves de costumes. On va s'occuper des réserves et de tous les mouvements des costumes entre ces réserves, notre théâtre principal qui est la salle Richelieu, et les deux autres théâtres qui sont gérés par la Comédie Française, qui sont le Studio Théâtre et le Vieux Colombier. Il peut nous arriver aussi de prêter quelques costumes à d'autres troupes. On peut aussi faire des prêts de costumes pour des expositions. On est notamment très régulièrement en lien avec le Centre National du Costume de Seine, qui se situe à Moulins-sur-Allier et qui est un immense musée du costume de théâtre, d'opéra, de danse, en plein centre de la France. Dans le métier de régisseur, il y a plusieurs choses, puisque c'est nous qui conservons les costumes et qui les rangeons dans les réserves et qui les dérangeons aussi, il faut les inventorier. Donc chaque élément de costume possède un numéro d'inventaire. Donc il va falloir étiqueter, coudre des numéros dans tous ces costumes. Il va falloir créer sur un logiciel des inventaires par pièce de théâtre. Donc voilà pour la mission d'inventaire qu'on occupe. Par ailleurs, on est présent lors des essayages des comédiens, puisqu'à la Comédie Française, on a des ateliers de couture qui sont sur place, qui sont dans notre théâtre Place Colette à Paris. Donc on a la chance d'être là en tant que régisseur pour les essayages, car hormis les costumes que vont fabriquer les ateliers, il peut arriver que le costumier ait envie de venir piocher dans les réserves, dans ce qui existe déjà chez nous, ou d'avoir quelques accessoires que nous possédons déjà. Et donc nous, notre rôle, ça va être de rassembler tous ces objets supplémentaires pour les faire essayer aux comédiens dans les ateliers de couture. Lors de ces essayages, on va aussi commencer à noter quels sont les costumes qui vont être portés par le comédien pour la nouvelle pièce de théâtre qui se prépare, donc à faire les descriptions qu'on pourra ensuite rentrer dans notre inventaire pour ensuite clairement retrouver facilement tous ces costumes en interrogeant notre base de données. Nous sommes aussi présents lors des répétitions, puisque les costumes étant en train d'être fabriqués au moment où les comédiens commencent à répéter, ils vont avoir besoin de costumes de répétition, c'est-à-dire que lorsque vous êtes comédien et que vous allez devoir porter par exemple une cape très lourde pour votre rôle, ça peut être intéressant de vous préparer dès les répétitions en ayant déjà ce poids sur les épaules. Donc nous, même si elle ne va pas avoir exactement la même apparence, dans ce cas-là, on va sortir une cape qui aurait à peu près le même poids, qui se porterait à peu près de la même façon, pour que le comédien puisse déjà avoir les mêmes sensations et qu'il puisse déjà travailler avec son corps et avec son vêtement et pouvoir envisager les mouvements qu'il fera. Donc ça, c'est une autre partie intéressante. On accompagne les costumiers dans les réserves aussi, quand ils commencent à choisir, parce que autant les costumiers pour la salle Richelieu ont accès aux ateliers de couture, mais en ce qui concerne nos productions au Théâtre du Vieux Colombier et au Studio Théâtre, les costumiers ont beaucoup moins de moyens, tout simplement, et vont beaucoup faire appel à nous pour sortir des choses de notre stock. Dans ce cas-là, on est là pour les accompagner, les guider dans nos réserves, qui sont quand même assez grandes. Alors moi, c'est un travail que j'adore parce qu'il me permet d'être au contact de gens qui ont des savoir-faire incroyables. Donc, que ce soit justement dans les ateliers de couture, de voir comment travaillent les tailleurs pour essayer de reproduire des costumes du XVIIIe siècle au plus proche de ce que ça pouvait être. On a aussi, par exemple, encore deux modistes qui fabriquent elles-mêmes les chapeaux, deux repasseuses qui savent encore comment repasser les fraises avec des fers pour les tuyauter, avec des fers à coque pour leur donner leurs formes arrondies. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fascine un peu d'observer tous ces gens-là travailler. Et étant donné que je me destinais plus au milieu des musées qu'au milieu du théâtre, c'est aussi quelque chose que je découvre au fur et à mesure et qui me plaît énormément. C'est un travail qui a aussi l'intérêt d'être à la fois un travail d'observation, de réflexion qui permet d'en apprendre toujours plus sur l'histoire du vêtement, sur le costume, sur l'histoire du costume de théâtre qui est encore autre chose, et qui en même temps aussi un travail physique, puisque on va porter des cartons, on va tirer des portants couverts de vêtements, on va porter des costumes. Et avoir les deux à la fois, c'est aussi quelque chose qui est assez plaisant.
Comme l'a dit Sophie, l'histoire de la mode est à la fois une histoire du corps et une histoire des sensations, une histoire liée à l'anthropologie. Je l'ai interrogée sur les rapports existants entre le vêtement et le corps.
Déjà, le vêtement a toute sa place dans l'histoire de l'art quand on l'étudie, parce que c'est le vêtement, c'est un produit des arts décoratifs. La mode, c'est un art décoratif, au même titre que le mobilier, le design. Et d'ailleurs, ce sont des domaines qui souvent se rejoignent. Et on a forcément un vrai travail esthétique sur l'étoffe, la manière dont ça va être tissé, tricoté, etc. Sur les couleurs, beaucoup. Et sur les formes. Le vêtement tient une place vraiment intéressante en histoire de l'art parce que dès que vous avez des personnes représentées, alors bien sûr vous avez les nus, ça c'est une chose, mais sinon vous avez des personnes habillées et comme dans la vraie vie, la première chose que vous allez voir de quelqu'un, c'est l'apparence, c'est les vêtements et forcément quand vous allez avoir par exemple un portrait, il va y avoir une réflexion de la part de la personne qui se fait portraiturer sur les vêtements qu'elle va porter pour la pose. Parce que par ces vêtements, elle va pouvoir dire des choses d'elle-même. Vous allez pouvoir deviner peut-être son métier, peut-être son niveau social, peut-être la situation dans laquelle elle se trouve à ce moment-là. Donc vraiment, toute cette apparence vestimentaire et aussi capillaire, parfois sur le maquillage, va en dire beaucoup en histoire de l'art sur la personne qu'on représente. On a une vraie mise en scène de soi par le vêtement. Alors c'est vrai en peinture, c'est vrai aussi en sculpture, où on peut aussi avoir des détails très précis sur les vêtements, et évidemment c'est vrai en photographie. En photographie, par ailleurs, si on va être plutôt sur une scène prise sur le vif plutôt que sur une pose ou un portrait, les vêtements vont permettre de dire comment les personnes s'habillaient réellement à l'époque où la photo a été prise. Donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, souvent, comme les portraits sont des mises en scène, on n'a pas forcément une réalité vestimentaire. Le vêtement va aussi, dans de nombreux cas, aider à la datation d'une œuvre parce qu'on pourra dire que tel type de robe était plutôt à la mode dans telle décennie et ça va aider à mieux dater une œuvre. Quand on parle d'histoire du vêtement, on parle obligatoirement de l'histoire du corps, parce que le vêtement n'a pas d'existence s'il n'est pas porté. Alors bien sûr, dans les musées, il n'est plus porté et il devient une preuve d'histoire, mais d'ailleurs souvent on va le présenter au public sur mannequin, pour qu'il soit à nouveau autour d'un corps même artificiel. Le vêtement, vous le portez sur la peau, directement sur le corps. C'est votre première barrière, après la peau justement, avec le monde extérieur. Donc soit il vous protège du monde extérieur, soit au contraire, le vêtement va dévoiler le corps à ce monde extérieur tout en le mettant en valeur. Dans ce croisement entre l'histoire du corps et l'histoire du vêtement, il y a peut-être une histoire des sensations. Parce que quand on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient tout à fait supportables pour les générations précédentes et qui ne pourraient peut-être plus l'être aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de sous-vêtements jusqu'au début du XXe siècle étaient en laine. Et aujourd'hui, c'est un contact que assez peu de personnes, assez peu de peaux supportent. De la même manière, par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, jusque dans la première moitié du XXe siècle, on portait des cols de chemise qui étaient amidonnés et pas mal de vêtements étaient amidonnés. Donc cela permettait de les rigidifier, de leur donner une forme. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à supporter aujourd'hui. J'ai pu le voir à la Comédie-Française où les repasseuses m'ont expliqué à quel point justement, même pour mettre en forme certains cols d'époque, enfin, qui donnent l'impression d'être de périodes anciennes, elle ne pouvait plus les amidonner comme ne serait-ce que 20 ans auparavant, parce que les comédiens ne supportent absolument pas ce contact. Donc il y a cette histoire des sensations. C'est aussi l'histoire des postures que vous donnez à votre corps, parce que là aussi ça a changé. On est peut-être aujourd'hui dans un corps qui est plus décontracté, avec des postures qui peuvent être de plus en plus variées, même dans l'espace public. On peut se permettre de se tenir de multiples façons, alors qu'avant c'était sans doute un peu plus réglé, voire un peu plus rigide aussi, dans la manière de se tenir. Et le vêtement va influer sur ces postures, puisque vous avez beaucoup de vêtements qui vont contraindre le corps. On pourrait penser que le vêtement est formé pour le corps et donc va s'adapter au corps. Alors ça va être le cas de certains vêtements qui vont vraiment épouser vos formes et puis surtout qui vont épouser vos mouvements, parce que le corps est assez peu de choses s'il ne bouge pas. Donc vous avez tous ces vêtements qui sont là pour accompagner vos mouvements et pour vraiment vous faciliter toute la vie quotidienne. Mais à l'inverse, beaucoup de vêtements vont créer des contraintes et ça va être au corps de s'adapter à ce vêtement. Donc les deux sont vraiment liés ici. L'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est celui du corset, qui notamment au 19e siècle, mais on a déjà des antécédents auparavant, va contraindre la taille des femmes, principalement en Europe et en Occident. Et donc tout cela, ça change tout en fait au niveau du corps quand vous portez un corset. Ça change votre posture, hein, vous vous tenez d'une autre manière, souvent plus droit. Ça change la manière dont vous grandissez parce que vos muscles ne se développent pas et que vos organes vont devoir s'adapter en changeant de place. Et puis ça change votre respiration. Ça a l'air d'être un exemple un peu dépassé aujourd'hui, mais on porte encore beaucoup de vêtements contraignants, mine de rien. Je pense par exemple aux chaussures à talons. Mais aussi, plus simplement, parce que c'est assez étonnant de le voir dans le vestiaire masculin, à la cravate, quand vous me portez une cravate en la serrant réellement autour de votre cou, dans le col de chemise entièrement boutonné, va aussi vous obliger, je trouve, à vous tenir plus droit, et ça en serre quand même la gorge, enfin, c'est une vraie contrainte. Forcément, on a ces contraintes du corps, qui permettent aussi d'avoir une emprise sur les corps gouvernés par le vêtement. Mais le vêtement va aussi retranscrire l'histoire des libérations. Si vous prenez le jean, ça va être une grosse révolution au milieu du XXe siècle qui va apporter de la liberté de mouvement. Si on parle de la mini-jupe dans les années 60, elle évoque directement un autre pan de l'histoire du corps qui est la libération sexuelle.
Le vêtement influe sur notre manière d'être, de se mouvoir, notre manière d'être perçu et appréhendé par autrui. Dans le monde du théâtre, c'est encore autre chose car le costume n'est pas la réalité. On a ensuite parlé des spécificités des costumes conservés à la Comédie française et j'ai demandé à Sophie si elle avait une anecdote particulière à nous dévoiler au sein de la collection.
Je ne sais pas s'il y a vraiment une spécificité des costumes conservés à la Comédie française. Enfin si, la plus grande spécificité, ça va donc être que ces costumes sont, pour la plupart, pas tous, il nous arrive de faire des achats, mais pour la plupart, fabriqués sur place par les ateliers de couture. Vous avez un atelier de réalisation des costumes féminins et un atelier tailleur donc, qui fabrique les costumes masculins. Donc ça implique que ces costumes ont la particularité d'être fabriqués sur mesure, pour des corps précis qui sont les corps des comédiens qui vont jouer la future pièce de théâtre. C'est quelque chose qu'on voit rarement aujourd'hui dans le reste de notre vie, puisqu'on, pour la plupart, nous portons des vêtements de prêt-à-porter avec des tailles standardisées. Ici, on va vraiment s'adapter à toutes les formes spécifiques du corps. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'à la Comédie française, par rapport aux autres théâtres, on a une troupe permanente, c'est-à-dire qu'on a une soixantaine de comédiens qui sont les comédiens de la Comédie française et qui sont les seuls à jouer à la Comédie française. Donc l'ensemble des employés de la maison, comme de la ruche aussi, pour prendre le terme de la Comédie française, connaît bien ces comédiens. Et de fait, les costumes vont conserver, même après avoir été portés, l'identité de ces comédiens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans d'autres théâtres, imaginons pour l'Avare de Molière, vous allez dire que vous conservez le costume d'Harpagon, puisque c'est le rôle principal, c'est celui de l'Avare. À la Comédie française, on aura tendance à dire qu'on conserve le costume de Denis Podalydès, qui a joué ce rôle d'Harpagon. Et on va vraiment désigner les rôles et les costumes par le nom du comédien plutôt que par le nom du rôle, alors que c'est ce qui va se pratiquer ailleurs. Donc on a vraiment cette empreinte du corps finalement qui reste dans le vêtement.
On évolue avec notre rapport au corps et aux vêtements dans une perpétuelle dichotomie entre le décent et l'indécent. Pour résumer mon propos et celui de Sophie, en gros, au Moyen-Âge, être nu était considéré comme naturel, même conseillé pour dormir. Mais à l'inverse, la représentation des corps nus dans l'art était prohibée, voire rigoureusement interdite car réservée au corps du Christ. À l'époque moderne, tout le bas du corps, principalement féminin, sinon ce n'est pas drôle, doit être dissimulé parce qu'il est le siège de désirs sexuels et des besoins biologiques. Seul le prétexte mythologique permet aux artistes de peindre des corps de divinités et autres muses dans le plus simple appareil. Puis le vêtement sera utilisé au XIXe non plus comme un paravent protecteur à tous les regards, mais plutôt pour provoquer le désir, voire même érotiser le corps. L'exposition Tenue correcte exigée, le vêtement qui fait scandale, qui s'est tenue aux arts décoratifs en 2013, nous montre très bien à quel point tout change en fonction de la société dans laquelle on vit. Montrer son corps ou bien le mettre ostensiblement en avant peut être transgressif, révélateur d'une époque. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande le catalogue de l'exposition qui regorge d'anecdotes fabuleuses sur les dictats de la mode et du costume historique et qui aborde vraiment le côté corps travesti que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'étudier pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve très prochainement pour un tout autre thème. Merci encore à Sophie pour son intervention. À la prochaine et prenez soin de vous.